Entre les lignes, le podcast de l'Équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.
Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette deuxième émission du podcast Entre les lignes, proposé par l'Équipière, votre média spécialisé football féminin. L'occasion d'ailleurs de remercier une nouvelle fois tout le monde pour votre participation au crowdfunding ces dernières semaines. Grâce à vous, l'Équipière va pouvoir se développer et proposer toujours plus de contenu qu'on espère de qualité, qui surtout vous plaira et qui vous donnera envie de suivre le foot féminin avec autant de passion que nous. Alors, on va faire une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va se pencher sur le choc de cette 9e journée de D1 Arkema, le match le plus attendu de la saison. C'est un peu le classico féminin, évidemment, PSG-OL. Ce sera ce vendredi à 21h. Alors, la question principale qui revient toujours, c'est est-ce que Paris peut battre Lyon pour la première fois depuis le 31 mai 2018, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, et la finale de Coupe de France. Alors, 2 ans et demi, c'est peu, vous me direz, mais sauf qu'on le verra, l'historique des confrontations est largement défavorable à Paris. Alors, qu'est-ce qui sépare concrètement les deux mastodontes du foot féminin français? On va vous donner tous les éléments pour suivre ce match et bien en comprendre les enjeux. Et pour cela, nous avons un consultant de choix. Lui, il en a connu des PSG Lyon. Il a été le coach parisien pendant 3 saisons, de 2009 à 2012. Mieux, il a remporté le premier titre du PSG. Et pour cela, il avait éliminé l'Olympique Lyonnais. C'était en demi-finale du Challenge de France, c'est-à-dire l'ancêtre de la Coupe de France, en 2010, une victoire parisienne au tir au but. Il est aussi le premier entraîneur à avoir qualifié le PSG en Ligue des Champions. Bonsoir Camille Ovas.
Bonsoir à tous les trois.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes toujours coach en U20 à la Garenne-Colombes, c'est ça, en région parisienne?
Oui, actuellement, ouais, exactement. Ouais, sur une équipe d'élite 2 de jeunes garçons en U20. Ouais.
Bon, vous serez notre consultant, un petit peu notre œil de lynx pour y voir plus clair sur ce choc. Vous suivez encore attentivement le PSG, j'imagine?
Oui, dans son ensemble, la D1 Arkema dans son ensemble. Après, attentivement, je jette un œil et je suis attentif, ouais, effectivement.
Bon, tout à l'heure, nous aurons le plaisir de recevoir une joueuse du PSG. Elle a 23 ans, elle est au PSG depuis ses 15 ans. Elle affiche 61 matchs de D1 au compteur et 4 sélections en équipe de France. Ce sera Perle Moroni. Elle sera avec nous d'ici une demi-heure environ pour une interview d'un quart d'heure. Vous verrez, on rajoutera ça au courant du podcast. À mes côtés, il y a les deux pontes de l'Équipière, rien moins que les deux rédacteurs en chef du site. Honneur aux dames, bien sûr. Marie Diémé, bonsoir.
Bonsoir Léo.
Et Nicolas Jambou, salut Nicolas.
Salut Léo, salut à tous.
Et bien voilà, on a une équipe de choc au complet, il faut ça pour traiter de ce classico. Est-ce que tout le monde est prêt?
On est prêt.
Alors c'est parti, on lance ce deuxième podcast d'Entre les lignes.
Entre les lignes.
Avant de parler de PSG-OL, on doit dire un mot sur la crise qui secoue l'équipe de France féminine. Vous l'avez certainement vu tous les trois. Amandine Henry, capitaine des Bleus, a complètement torpillé sa sélectionneuse Corinne Diacre dimanche sur Canal+. Alors, je vais résumer les grandes lignes. Selon elle, le lien de confiance avec Diacre est rompu. Le management de Diacre est intenable. Il terrifie les joueuses jusqu'à les faire pleurer. Et selon Amandine Henry, eh bien, l'équipe de France va dans le mur si ça continue comme ça. C'est une prise de parole qui est très très forte de la part, on l'a dit, de la capitaine en exercice des Bleus. C'est surtout une nouvelle cadre mécontente après Le Sommer, Renard, Boisdi, Tinet. Et c'est surtout un nouveau signe du mal-être qui gangrène un petit peu l'équipe de France. Alors, nous enregistrons ce podcast mardi 17 novembre, donc après les déclarations d'Amandine Henry, mais avant la liste de Corinne Diacre pour les 2 derniers matchs de qualification à l'Euro 2022 contre l'Autriche et le Kazakhstan. Elle l'aura donné le jeudi, donc au moment où on diffusera ce podcast. Donc, on ne sait pas encore le détail de cette liste, on ne sait pas encore si Amandine Henry y sera, on ne sait pas encore ce que va dire Corinne Diacre, mais je vous pose la question, Camille Ovas, comment se sortir de cette crise qui empêche l'équipe de France d'avancer et de remporter ce titre qu'elle attend depuis bien longtemps, européen ou mondial, ou olympique?
Oui, je pense que de toute façon, moi, j'ai effectivement suivi cette actualité-là, comme nous tous. Il y a à en prendre, à en laisser. Maintenant, dans les grandes lignes, très sincèrement, ce que j'en pense, c'est que dans la manière, c'est très compliqué. Dans la forme, effectivement, je pense qu'Amandine Henry est une fille très intelligente. Les mots étaient bien pesés. C'est annoncé de manière assez habile. Mais il n'en reste que dans le fond. Ça reste très délicat et j'étais quand même assez surpris de cette prise de position-là. elle a une légitimité, elle avance des arguments qui sont les siens. Je pense que ça divise plus que ça ne fédère. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très positif comme intervention. Maintenant, si elle a jugé nécessaire de le faire, ça lui appartient. Je pense que ça dessert le football féminin. Et que finalement, en arriver là, c'est mettre un peu sur la place publique des choses qui doivent se régler de toute façon en interne.
Il y a eu un édito qui a été fait par l'équipe qui s'appelait Bravo à tous. Je pense qu'ils ont très bien résumé et critiqué un peu chaque partie. Les joueuses, Corinne Diacre, le président de la fédération. C'est vrai que c'était un peu... on avait cette impression-là. Tout le monde s'est un peu ridiculisé sur la scène publique.
Ouais, exactement.
Moi, je suis...
C'est ce que je pense.
Après, voilà, moi, ma première réaction a quand même été de dire que... Bah, je trouve que c'est bien qu'une joueuse ait parlé, surtout une capitaine, parce qu'effectivement, il y a des tensions qui sont évidentes et c'était bien de parler. Au début, je me suis dit que le timing était bon, et puis en y réfléchissant, je me suis dit que peut-être Amandine Henry aurait pu le faire un an auparavant, juste après la Coupe du Monde, parce que là, on a l'impression qu'elle parle au nom de toutes les joueuses, mais c'est juste après elle qu'elle a été non sélectionnée. Donc au final, c'est une réaction un peu personnelle, un petit peu égoïste, alors qu'elle met en avant le fait qu'elle parle pour tout le monde. Elle aurait pu le faire un an avant.
Oui, au niveau du timing, oui. Effectivement, il y a cette question de timing-là, mais il y a aussi la question de finalement, est-ce que passer ce message-là à Corinne Diacre, est-ce que c'est la personne à laquelle il faut passer ce message-là? Corinne Diacre, elle est sélectionneuse, elle travaille bien ou pas bien, j'en sais rien, mais elle a une bonne image, quelqu'un d'extrêmement appliqué, qui a des qualités et des défauts. Finalement, elle fait ce qu'on lui demande. Elle est sélectionneuse de l'équipe de France. Au bout du compte, cette interview, on va aller sur quoi? Il faudrait que Corinne Diacre démissionne. Pourquoi? Elle fait ce qu'on lui demande, elle a un contrat, elle va jusqu'au bout, sa place est légitime. Il y a des tensions, je ne suis pas sûr que de les mettre en avant sur la place publique, ça va résoudre les tensions.
Ce que je trouve personnellement un peu dérangeant dans cette question-là, c'est que finalement, tout le monde nous dit « Oui, alors ce qu'on veut, c'est qu'on se mette tous autour de la table pour discuter de ça et faire en sorte que l'équipe de France aille vers l'avant. » Mais dans les faits, avec tout ce qui s'est dit, comment est-ce que l'équipe de France peut continuer à fonctionner normalement avec Corinne Diacre? Quelle est raison ou tort? C'est pas la question.
Oui,
mais
oui,
comment est-ce qu'en ayant ce genre de propos, on peut continuer à travailler normalement? C'est des propos qui sont limite assassins.
C'est un peu ça, la portée des propos qui peuvent être légitimes, parce que Amandine Henry, c'est pas une menteuse. Je pense que c'est quelqu'un de très respectable comme Corinne Diacre. Et je pense que de mettre en avant les arguments, ça ne la met pas en valeur en fait. Alors le timing, effectivement, Nicolas le précisait, il est suspicieux. Voilà. Les arguments, ils ne sont pas en valeur du football féminin. Alors des filles qui pleurent dans leur chambre parce que c'est compliqué, c'est difficile effectivement et tout. Oui, ça peut arriver, c'est quelque chose de très intime. Sur la place publique, je pense que ça dessert le football féminin plus qu'autre chose. C'est que mon avis, et ce sont des gens que je respecte beaucoup, ils ont une belle carrière, que ce soit Corinne Diacre ou Amandine Henry. Mais là, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont pas en faveur du football féminin dans son ensemble, puisque c'est de ça qu'on parle.
Écoutez, on verra la réponse de Corinne Diacre. Elle est attendue donc jeudi en conférence de presse. On verra les répercussions, les conséquences que ça aura sur l'équipe de France, hein, qui prépare quand même un euro là, qui sera avec Corinne Diacre, puisqu'elle a été prolongée par Noël Le Graët, le président. On verra.
Attention. On ne sait pas ce qui va se passer.
On ne sait pas, en effet. Il peut y avoir des surprises. A priori, Corinne Diacre est censée rester pour l'Euro.
Oui, oui.
C'est le contrat qui le dit pour l'instant jusqu'en 2022. Après, on sait très bien qu'une défaite en Autriche, ce sera très compliqué pour elle. Une défaite en Autriche la semaine prochaine, ce sera très compliqué pour elle de rester. Il y a aussi des élections en mars 2021 pour la présidence de la Fédération française. Et on sait que si Noël Le Graët n'est plus président de la Fédé, elle sera peut-être plus fragilisé. Donc voilà, même si ça coûte de l'argent de la virer en mars pour le peut-être le futur président de la Fédé, il ne faut pas exclure cette possibilité.
Il faut pas exclure. On a été habitué depuis le retour du mondial français en 2019 à beaucoup de surprises, et ces prises de parole l'ont un peu montré sur ça. On verra, on suivra ça avec attention, bien sûr, sur l'équipière. Pour l'heure, on va se concentrer sur ce choc PSG-OL qui aura lieu donc ce vendredi. D'abord, un petit état des lieux, Nicolas. Où est-ce qu'on en est dans cette D1 Arkema?
Écoute, Léo, nous approchons bientôt de la moitié de cette D1 Arkema 2020-2021. Chaque semaine, on a un championnat qui nous réserve des belles surprises, et on commence un peu à tirer les, les premiers enseignements de la saison. Un petit point classement rapidement, hein, nous y reviendrons longuement, mais pour l'instant, on a les fenêtres de l'OL qui sont en tête avec 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. À l'issue de cette 8e journée, on a aussi Bordeaux qui est venu, et ce, pour la première fois de la saison, s'installer sur le podium. On a des Girondines qui marquent beaucoup de buts avec une Khadija Chaud qui est meilleure buteuse du championnat. Et elles en ont aussi beaucoup encaissé en début de saison. C'est ce qui est peut-être aussi leur difficulté au début de ce championnat. Mais voilà, elles sont troisième. Derrière, on a un quatuor, Montpellier, Paris FC, Dijon et Fleury. Elles sont dans un mouchoir de poche. Et c'est très serré entre elles, avec notamment le beau début de saison de Dijon, de l'équipe de Yannick Chandiou. Et en fin de classement, on a le GPSO ici, 92, qui est 10e. Il devancera l'ASJ Soyo grâce à sa victoire lors de leur confrontation directe. Soyo 11e, et donc devant Le Havre, qui est 12e, avec 4 petits points seulement et une terrible série de 5 défaites consécutives. Il est important de rappeler rapidement juste que le championnat D2 est actuellement suspendu jusqu'au 1er décembre, compte tenu du confinement. La plupart des équipes continuent néanmoins de s'entraîner, voilà, pour le petit point D2.
Ouais, on a vu notamment que certaines équipes comme Isère se plaignaient de ne pas pouvoir s'entraîner. C'est des questions de contrat fédéral, etc., dont on a parlé sur L'Équipière. Et on vous invite à aller voir pourquoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors, on va revenir longuement sur PSG-OL, Nicolas, mais il y a d'autres matchs, bien sûr. Quel est le programme un peu de cette 9e journée?
Oui, alors en ouverture, on n'aura pas le droit à un bouquet final, mais bien un bouquet initial. C'est le grand match qu'on attend, c'est les deux ogres de cette D1, c'est le PSG contre l'OL, et c'est ce vendredi soir en direct sur Canal+. Il y aura ensuite un joli multiplex ce samedi après-midi à 14h30. Il y aura de jolies affiches, il y aura notamment un duel serré et indécis qui s'annonce entre Dijon et Fleury. Les mal classés de cette D1, eux, tenteront de se relancer. Périlleux déplacement à Montpellier pour Le Havre, qui reste donc sur les 5 défaites consécutives. Il y a ici qui accueillera Guingamp et Soyez au Reims. Enfin, il y aura bien un joli bouquet final également, puisque dimanche après-midi, le 5e de cette D1 Arkema, le Paris FC, sera opposé au 3e, les Girondines de Bordeaux. Duel entre prétendantes à la Ligue des Champions. Donc, comme vous l'aurez compris, on a un joli programme pour cette 9e journée de D1 Arkema.
Merci Nicolas pour toutes ces informations. Vous avez le programme. Camille Jovas, à mi-saison, quel est un peu votre regard sur cette D1 et est-ce qu'il y a une équipe qui vous séduit particulièrement, du coup?
Moi, j'aime bien ce que fait ce qui se passe aux Girondines de Bordeaux, si on peut dire ça comme ça. Voilà, à Bordeaux, j'aime bien ce qui se passe depuis plusieurs années déjà, même si on oublie un petit peu vite comment ça a commencé. J'aime bien parce que ça titille un petit peu les sommets. Voilà, ça vient s'intercaler là entre Montpellier et Paris. On n'est plus sur 2 têtes de liste, on est à 3-4 têtes de liste. Moi, effectivement, je suis plutôt attentif sur ce qui se passe en Gironde. Ouais. Sur ce qui se passe en Gironde. Ouais.
Quel est votre regard un peu sur le niveau de cette D1 saison 2020-2021?
Bon, même si ça se resserre en tête, très sincèrement, bon, on a eu entre guillemets le petit malheur d'avoir un match sur Canal+ Sport là, qui était ici les Moulineaux là, et qui, à mon sens, une fois de plus, j'utilise ce qualificatif là, mais je le pense vraiment, qui dessert un petit peu le football féminin, 14-0 sur un match de première division. Ça reste encore, malgré mon passage il y a 10 ans, des scores qui existaient et qui desservaient effectivement l'attrait et l'intérêt que les gens pouvaient avoir sur le football féminin spécifiquement. Maintenant, ce que j'en pense, c'est qu'il reste une fracture qui ne me semble pas normale, voilà, pour ne pas mâcher mes mots, entre les statuts des joueuses sur cette première division. Alors, il y a des droits télé qui sont pas, il y a des statuts fédéraux, il n'y a toujours pas de statut pro. Il y a des disparités importantes. On voit effectivement, pour ne parler que d'ici les Moulineaux ou encore Le Havre, des choses qui se mettent en place mais qui sont hyper poussifs. Donc on retrouve un peu bis repetita sur ce qui se passait il y a 10 ans, alors qu'il y a des super trucs qui sont mis en place dans les clubs. Et je parlais de Bordeaux, mais il y en a d'autres. Hein. Fleury, c'est quand même assez top. Mais ça ne fait qu'augmenter la fracture finalement. Je pense qu'on devrait, en 10 ans, là, depuis 10 ans, on devrait être sur 4, 5, 6 clubs qui mettent en avant les féminines, qui mettent des moyens, qui professionnalisent avec une fédération qui fait des contrats pro, avec des structures d'accueil qui sont dignes de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui se passe peut-être encore un peu plus aux États-Unis. Et on est resté sur cet écart-là. Et finalement, je pense qu'on court toujours un petit peu après au niveau des statuts des joueuses et au niveau de ce qu'on peut faire dans les clubs concrètement. qu'on peut faire dans les clubs si on passe 2-3 coups de fil ou moi j'ai quelques joueuses de temps en temps au téléphone. Ça se passe très bien, mais j'ai l'impression d'être dans certains clubs 10 ans en arrière. Ça, c'est effrayant.
Le débat sur le niveau de la D1, en effet, pourrait être en effet assez long. Hein, la victoire large du PSG 14-0 montre qu'en effet, il y a encore des disparités clairement à gérer. L'autre, bon, et ça fait partie des débats. L'autre débat, c'est celui qui va nous occuper sur le temps de ce podcast, c'est-à-dire le choc PSG-OL. Entre les deux. Alors, un petit historique des confrontations. Avant ce vendredi, il y a eu 53 matchs entre le PSG et l'OL. Alors, un petit pari, messieurs, dames, combien de victoires de Lyon, combien de paris? Vous voyez
depuis,
à peu près
depuis quelle date?
Depuis le début des années 2000, 2003, je crois, il me semble.
Alors, en D1, je sais que depuis 2012, il y a eu 2 victoires du Paris Saint-Germain.
Ouais, il doit y en avoir 3 ou 4, ouais.
Tout à fait, le PSG a 4 victoires, 35 victoires pour l'Olympique Lyonnais et 14 matchs nuls. Alors, sachant que les nuls ont aussi eu lieu en phase d'élimination directe, type Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, etc., et qui se sont finis au tir au but. Et si on compte les matchs au tir au but, ça fait 39 victoires pour l'Olympique Lyonnais, 9 matchs nuls et 5 victoires pour le PSG. D'ailleurs, la seule victoire de Paris au tir au but, c'était avec vous, Camillo, en 2010, en demi-finale de Coupe de France. Un partout, 3 tirs au but à 2, un but de Caroline Pizzala donc pour le PSG, un but d'Erlofsen pour Lyon. Alors là, je vais faire une pause dans les chiffres. Camillo, on reparlera recette tactique dans quelques minutes, mais quel souvenir vous gardez de cette demi-finale?
C'est un souvenir qui est un des plus beaux souvenirs de mon passage de 3 ans au Paris Saint-Germain. Non pas dans, si on parle tactique ou technique ou tout ce qu'on veut, mais c'est un super souvenir avant tout dans l'aventure humaine. Parce que je me souviens très très précisément du match, de l'avant-match, de ce qui s'est passé même sur l'après-match avec des tensions avec M. Aulas qui était très remonté après-match. Voilà, ça reste un très très beau souvenir. Mais pas seulement sur le fait, effectivement, je pense qu'ils font finale de Ligue des Champions encore une fois cette année-là, il me semble, quand on arrive à faire cette performance. Mais c'est tout ce qui enveloppait ce match qui reste assez inoubliable. Et c'est une belle fierté d'avoir pu vivre ça avec ces filles-là.
Alors, malgré tout, le PSG a progressé, hein, surtout depuis 2010. Fut un temps, le PSG pouvait encaisser entre 2 et 7 buts selon les matchs face à l'OL. Or, sur les 12 derniers matchs, les PSG-OL se sont terminés sur des 1-0 ou des 1 partout, à l'exception d'un match de D1 il y a un an et demi que Lyon avait gagné 5-0. Mais autrement, il n'y a jamais plus de 2 buts, statistiquement en tout cas, dans les PSG-OL. C'est notamment sous l'impulsion de Patrice Lerre entre 2016 et 2018 que le PSG s'est amélioré face à Lyon, avec notamment la Coupe de France 2018, remportée 1-0 face à Lyon. Journe de psychodrame au PSG, puisque Patrice Lerre était déjà parti, s'était déjà engagé avec Niort à l'époque, et c'était Bernard Mendy qui était sur le banc. Et depuis cette victoire en Coupe, donc le 31 mai 2018, le PSG n'a plus battu l'OL. Et c'est là que je me tourne vers toi, Marie. Qu'est-ce qui manque au PSG?
Bah alors, vous l'aurez compris, ce vendredi, c'est un peu le classique du football féminin français. C'est les équipes qui, depuis près de 10 ans, se disputent les 2 premières places de la D1. La D1 que le Paris Saint-Germain n'a jamais remportée. Donc, un titre qui fait toujours défaut au palmarès parisien. Et comme tu l'as dit, qu'est-ce qui manque aux Parisiennes pour justement s'asseoir pérennement à la table de l'Olympique Lyonnais? Premièrement, faire preuve de caractère. Le Paris Saint-Germain entame très souvent son match en étant perdant. Grâce Guillaume l'a dit d'ailleurs dans une interview consacrée au site du Paris Saint-Germain. On sait que l'aspect mental sera très important et qu'il faudra saisir la moindre occasion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de caractère? C'est premièrement ne pas se contenter de faire le dos rond face à l'Olympique Lyonnais, qui est déjà très fort et qui n'a pas besoin de prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire, mettre de l'impasse physique et bien évidemment proposer des solutions. Bien trop souvent, on voit des joueuses parisiennes qui sont limite cachées derrière leurs adversaires et qui ne posent pas assez de solutions, ce qui ne permet pas au Paris Saint-Germain de pouvoir se défaire du pressing lyonnais. Ensuite, être plus efficace dans les transmissions. Dans un match où vous n'avez pas suffisamment la possession du ballon, comme c'est souvent le cas lorsque des équipes affrontent l'Olympique Lyonnais, lorsque vous avez le ballon, vous devez mieux négocier les contres. Et au Paris Saint-Germain, on constate trop souvent que dans les matchs contre l'Olympique Lyonnais, face au pressing adverse, les transmissions sont bien souvent bâclées. Donc le Paris Saint-Germain doit avant tout poser le jeu au sol et arrêter de balancer le ballon et rendre la partie à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, être moins sur la défensive. On parlait de statistiques tout à l'heure, il y a une statistique qui est assez parlante, c'est que sur Les 15 dernières rencontres entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Lyon a inscrit en moyenne 2,1 buts par match contre 0,3 pour le Paris Saint-Germain, ce qui correspond à peu près à un but tous les 3 matchs. C'est largement insuffisant. Les Parisiens ont tendance à être acculés et justement à faire preuve d'un jeu offensif qui est très limité, voire faible. Et c'est sur ce point-là qu'on attend les Parisiennes, parce que sur les rencontres qui ont été gagnées par les Parisiennes depuis 2015, 2 rencontres, à chaque fois, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le plus petit des écarts. 1-0. Jamais le Paris Saint-Germain n'a réussi à dominer complètement un match contre l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a eu des matchs nuls qui étaient un peu plus disputés, mais de là à dire que le Paris Saint-Germain avait totalement la mainmise sur le match, ce serait complètement faux. Et puis enfin, il y a un défaut du Paris Saint-Germain, mais un défaut qui est plus global, beaucoup plus structurel, c'est la pérennité de la structure parisienne. L'Olympique Lyonnais, c'est une machine qui tourne depuis 2004, depuis la fusion avec le FC Lyon. Donc, on a une équipe qui est totalement rodée. Donc vous avez une mécanique qui fonctionne, et puis de temps en temps, une fois par an, vous avez des nouvelles recrues qui s'intègrent parfaitement au collectif lyonnais. Là où les choses s'inversent un peu plus du côté Paris Saint-Germain, c'est que vous avez des joueuses qui ont été formées au club qui, depuis 4-5 ans, évoluent tout ensemble en D1. Et là, on commence à voir émerger des joueuses de manière collective et non plus sur le plan individuel, comme Permoni, Grace Guillaureau, Marie-Antoinette Katoto, qui savent évoluer ensemble et qui s'intègrent parfaitement dans le collectif avec des joueuses étrangères qui ont un peu plus d'expérience, comme Irène Paredes, Nadia Nadim, Formiga, même si elle est plus sur la fin de sa carrière, qui apportent aussi cette partie-là, cette expérience aux joueuses qui leur manquait. Et le Paris Saint-Germain est peut-être là, sur ces 2 prochaines années, sur un tournant, parce que vous allez avoir des joueuses qui arrivent à maturité, qui se connaissent, et c'est sur ça que le Paris Saint-Germain doit miser pour pouvoir battre l'Olympique lyonnais.
Alors, ça fait autant d'exemples, hein, du coup, qui montrent là, un petit peu, qui permettent de dresser un premier écart. Qu'est-ce qui sépare, à votre avis, le PSG et Lyon, Camille Yovas?
D'abord, effectivement, c'est très lucide et bravo pour ces arguments et cette analyse que je rejoins complètement. Je pense que ce qui sépare, c'est ce qui s'est passé avant, en fait. Je pense que Lyon a un temps d'avance dans le football féminin. Monsieur Aulas a mis les pieds dans le plat bien avant tout le monde. La structure, l'encadrement, l'état d'esprit, le leadership, tout ce qui fait qu'en fait, le match se joue pas que sur leur ennemi. Il se joue avant, il se joue pendant, il se joue après. Bah, toutes ces structures-là, pour connaître un peu les deux entités, pour connaître aussi un peu les gens qui sont en place et leur façon de travailler, que ce soit Jean-Luc Vasseur, hein, qui était à Paris quand j'y étais, ils ont un temps d'avance. Ce n'est pas maintenant en fait que les raisons, les effectifs sont costauds des deux côtés, les coachs sont hyper compétents des deux côtés, la structure en elle-même est hyper professionnelle. Là, il n'y a pas que Paris qui n'a pas réussi à faire déjouer Lyon. Personne n'arrive à faire déjouer Lyon. Donc effectivement, il n'y a pas de gros écarts sur les Paris-Lyon pour Paris, mais c'est le cas pour toutes les équipes en Europe. Donc du coup, la vraie question, c'est qu'effectivement, ce temps d'avance qu'a Lyon, un, il le garde et deux, il l'accentue. Parce que quand on voit le travail, que ce soit, j'ai eu encore récemment, que ce soit Camille Abili ou Sonia, c'est un travail qui est impulsé depuis bien plus longtemps que Paris. Et quand on voit aujourd'hui, même si Bougival, c'est une plus-value à Paris pour le travail, ça reste quelque chose qui se construit et qui semble se construire petit à petit. Donc ce qui manque, c'est ce qui s'est passé avant. Et donc du coup, pour rattraper ça, bah, 10 ans, quand on voit chez les garçons à Paris, 10 ans, bah, on n'a toujours pas la Ligue des Champions. Donc c'est pas tant que ça finalement. Et chez les féminines, c'est accentué parce que le réservoir est moins important. Parce que Lyon a un temps d'avance sur la formation et sur le recrutement, et du coup, eh ben, ça fait retarder un petit peu la concurrence. Et ce temps d'avance-là, je pense que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui Lyon continue à perfer, parce qu'une fois de plus, voilà, Jean-Luc Vasseur s'est super bien joué. Qui aurait dit que Jean-Luc Vasseur, il vienne sur les féminines? Pedros, c'est super bien joué. Ça se passe comme ça se passe, mais c'est des garçons qui sont ultra professionnels, qui sont dans le milieu, qui. Et si on nous avait dit ça il y a 10 ans, quand moi j'étais à Paris, moi j'ai été extrêmement privilégié d'avoir ces filles-là. Et je suis très fier de ce qu'on a fait, mais je l'ai aussi fait parce que j'avais des joueuses exceptionnelles. Bon, comme elles le sont aujourd'hui, hein, dans ces effectifs-là, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est très méritant aussi d'arriver à les gérer, j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, il faut être lucide. Ce qui a été fait avant, mis en place avant, ça se rattrape. Parce que vous l'avez dit, hein, les chiffres montrent que c'est serré, que le très haut niveau fait que les scores, effectivement, sont serrés, mais ça prend du temps.
Oui, moi je suis à peu près d'accord, je rejoins un peu les propos de ce qui a été dit. Maintenant, voilà, on le sait, des matchs importants comme ça se joue aussi à des détails, même s'il y a du retard, ça se joue à des détails, on l'a vu. Il faudra mettre plus d'intention, plus d'engagement, enfin, le bon engagement, une bonne agressivité, mais plus d'intention de jeu aussi peut-être, parce que moi j'ai souvenir de la dernière finale de Coupe de France où on voyait une fenêtre Katoto extrêmement basse, presque numéro 10. Voire numéro 8 parfois. Ça, c'est quand même problématique quand on a une buteuse qui est capable d'être excellente comme ça dans la surface de réparation et de marquer des buts. C'est problématique.
Mais comme elle l'a été contre Issy-les-Moulineaux, hein, sur la
Ouais.
première heure.
Oui.
Ouais.
C'est vrai. Mais bon, fa face à l'OL, moi, ce qui m'avait dérangé, par exemple, cette finale de Coupe de France, c'est qu'il n'y avait pas d'attaquante. Il n'y avait personne dans la surface de réparation. Il n'y avait personne. L'équipe était très, très basse. Ils ont abordé différemment lors de leur demi-finale de Ligue des Champions à Bilbao. Beaucoup d'agressivité, vraiment énormément d'agressivité, ce qui a valu aussi peut-être à la fin le carton jaune de Gras Gueyroux. Il y avait plus d'intention, plus d'agressivité. Cette fois, c'était peut-être trop. Voilà, il va falloir savoir doser un peu cette agressivité, cet engagement. Mais en tout cas, y aller avec des intentions pour enfin marquer. Et comme l'a dit Marie, parce que 0,3 buts par match, c'est pas assez.
Camillo, j'ai envie de vous poser la question. Quand vous étiez coach du PSG, vous le voyiez cet écart avec l'Olympique lyonnais déjà en 2010, entre 2009 et 2012, même pendant votre mandat?
Ah oui, bien sûr. Oui, nous, si effectivement cette fameuse demi-finale Coupe de France a fait autant de bruit, c'est parce qu'il existait un écart énorme déjà. Il existait un écart énorme. Quand effectivement les Qataris arrivent 2011, il me semble, on essaye de creuser, de diminuer cet écart-là. Mais le retard est colossal déjà. Le retard est colossal. On le voit sur effectivement les Coupes d'Europe, les titres des Lyonnaises, le nombre de championnats de France gagnés, et les filles qui sont restées fidèles à Lyon et qu'on construit autour de ça. Parce que à Paris, finalement, les Parisiennes, alors on a eu Sabrina, quoi. Moi j'ai eu Sabrina qui est restée une grande partie, Laurette et ainsi de suite, mais finalement elles sont deux, elles sont peut-être trois, mais à Lyon elles ne sont pas deux ou trois. Hein. Ça fait 10 ans que les filles sont en plus. En faisant l'impasse sur Clairefontaine, donc c'est même pas 10 ans. Les filles ont toujours joué ensemble, et ça c'est un gage quand même de qualité et de performance. Hein, et de performance. Quand les résultats existent chez les garçons, Guardiola à Barcelone, il n'a pas la génération Xavi et ainsi de suite. Il les a pas un an ou deux. Hein. C'est des garçons qui jouent depuis 15 ans ensemble. Donc du coup, c'est vrai que ça fait la différence au très haut niveau. Et quand on parle de détails, et ben ces détails-là, ils s'expliquent par ce qui s'est passé avant, sur ces automatismes-là, sur les coups de pied arrêtés, sur. Effectivement, on est dans le détail. Mais il y avait déjà, 2009, 2010, 2011, c'était l'exploit de faire un match nul à Gerland, c'était l'exploit de gagner en Coupe de France. On en a eu 35% de possession de balle ce jour-là, même pas, je pense. Hein. Donc, ça avait. Et si l'orageur, je ne prends pas le carton rouge, et si. Bon, voilà. Donc. Il y avait déjà.
C'est surtout le match du 12 novembre 2014 qui m'a moi bien marqué. Donc c'était un match. Alors c'était en dehors du contexte de la D1. Alors il y a eu certes des victoires du Paris Saint-Germain en D1, mais finalement le Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à remporter ce titre-là. Donc là où Paris Saint-Germain a vraiment réussi à créer un exploit face à l'Olympique Lyonnais, c'est en Ligue des Champions. Donc vous avez eu ce contexte de novembre 2014 qui était quand même assez fou puisque vous aviez une triple confrontation. C'était la première fois dans l'histoire où vous aviez en l'espace de 10 jours le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais qui s'affrontaient à 3 reprises. Donc une première fois en D1, un match qui a été perdu par le Paris Saint-Germain de manière assez logique au Stade Charletti. Et puis ensuite une double confrontation au titre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors sur le match aller qui s'est également déroulé à Charletti, alors vous aviez un match nul qui était beaucoup plus poussif que le match de D1. Donc le Paris Saint-Germain avait fait preuve de beaucoup d'abnégation et avait réussi à concéder un match nul. Alors, avec un but concédé, pardon, à domicile, on pouvait penser que l'Olympique Lyonnais allait justement s'imposer très facilement à la maison pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je rappelle d'ailleurs que la saison précédente, lors de la saison 2013-2014, l'Olympique Lyonnais ne s'était pas qualifié pour les quarts de finale et avait été éliminé par le Potsdam d'une certaine Ada Hegerberg. Donc, l'Olympique Lyonnais avait une revanche à prendre sur cette compétition. Et l'Olympique Lyonnais, malheureusement, va buter sur une équipe du Paris Saint-Germain bien redoutable. Donc, le contexte du match, vous avez pendant 90 minutes l'Olympique Lyonnais qui a l'ascendant sur le match. Et lorsque je dis l'ascendant, c'est même un euphémisme, puisque l'Olympique Lyonnais a dominé de bout en bout. Le coach de l'époque, Gérard Prêcheur, dit on est resté pendant 90 minutes dans la surface adverse, mais on n'a pas réussi à ouvrir le score. Et ce qui s'est passé, c'est que le Paris Saint-Germain, sur une de ses rares occasions, sur un coup franc tiré par Kerr Amraoui, dévié ensuite par Laura Georges, qui avait au joint de Paris Saint-Germain à l'intersaison, et vous avez la recrue estivale Fatmir Alouchi qui va venir d'une talonnade inscrire le but de la victoire. Alors il va rester 10 minutes durant lesquelles Lara Dieckelmann, Eugénie Le Sommer et Lota Schelin vont tenter de renverser la tendance, mais Katarzyna Kedarzynek va rester infranchissable et va octroyer la victoire au Paris Saint-Germain. Donc si on résume ce match, une confrontation qui induit que l'Olympique Lyonnais ne se qualifie pas pour la deuxième fois d'affilée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ce qui est quand même à l'époque un sacré choc pour l'Olympique Lyonnais, et le Paris Saint-Germain qui réussit sur un véritable hold-up, on peut le dire sans crainte, à se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que le Paris Saint-Germain va attendre la finale de la compétition et va buter face au club de Francfort. Francfort qui était à l'époque le club de Jennifer Marossan. Le Paris Saint-Germain va perdre cette rencontre 2-1 et va être à cette marche-là de gagner la Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain en soi a déjà battu l'Olympique Lyonnais, l'a déjà fait en D1, mais n'a pas gagné le championnat et a déjà su faire le dos rond. Bon, malheureusement, ça n'a pas forcément donné des rencontres agréables à voir, mais le Paris Saint-Germain sait parfois puiser dans ses ressources pour venir à bout de l'Olympique Lyonnais.
Alors, puisqu'on est en 2014, c'est une année plutôt positive entre guillemets pour le PSG, puisque 18 janvier, ils battent l'Olympique Lyonnais à domicile, enfin à Gerland, j'entends, 1-0. Alors, ils perdent en finale de Coupe de France derrière en juin. Ils perdent de peu, hein, 2-1 le 1er novembre à Gerland contre l'OL. Mais par contre, en Champions League, un partout à l'aller, 1-0 au retour pour le PSG. Donc c'était une année plutôt positive, hein, pour le PSG, en termes de nombre de matchs et de réussite.
C'est ça, et j'aimerais aussi ajouter que cette année, le Paris Saint-Germain, en 2014, a pour moi réalisé son meilleur mercato. Vous avez dans les rangs du Paris Saint-Germain Fatmir Alouchi, Joséphine Henning, Laura Georges, Kerr Amraoui, Shirley Cruz, Aurélie Cassi, Kenza Dali, Caroline Seager, mais c'était vraiment, le Paris Saint-Germain avait pour une fois vraiment une armada qui, au moins sur le plan individuel, pouvait rivaliser avec l'Olympique Lyonnais. J'ai pas le souvenir que, même aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ait eu un meilleur effectif que ça. Malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à franchir cette marche qui lui aurait permis de gagner la Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain s'était doté en conséquence pour pouvoir battre l'Olympique Lyonnais et s'était décidé à mettre les moyens. Et on a vu par la suite, notamment en 2016, que le Paris Saint-Germain avait décidé de réduire la voilure et que ça a mis du temps pour faire émerger ces jeunes qu'on connaît aujourd'hui.
Alouchi, qui est buteuse à l'aller et au retour en Champions League. Alors là, on parlait d'une année. Camille Yomvaz, j'ai envie de revenir sur ce jour en fait, où vous aviez battu l'OL. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueuses? Quelle est la recette que vous avez mis en place pour pouvoir tenir face à Lyon et surtout les battre psychologiquement à une épreuve qui est assez terrible, qui est les tirs au but en demi-finale en 2010 de Coupe de France?
Mais ça avait été très, entre guillemets, un peu particulier parce que... on était sur une dynamique qui était absolument incroyable. Je crois que de mémoire, on avait fait 10 victoires d'affilée, je crois, ou 9 victoires d'affilée sur le début de saison. C'était le début du projet. Il y avait vraiment ce que j'appelle les à côté, entre guillemets, qui nourrissaient cet espoir-là d'arriver à un moment ou à un autre à rivaliser avec l'ogre lyonnais. Les discours, en fait, ils font pas basculer les matchs, je pense, hein, les discours. Hein. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on trouve les mots ou qu'on a le bon système de jeu, les bonnes joueuses au bon poste, et ainsi de suite. Je pense que ce qui fait basculer le match, c'est la cohésion que les filles ont mise dans ce match-là. C'est effectivement l'engagement physique, athlétique, qui était disproportionné pour nous parce que c'était déjà au-dessus de nos moyens. Même si on avait l'ambition de professionnaliser, on ne l'était pas, et on jouait contre des professionnels déjà. C'est tout ce qui fait aujourd'hui que ça est resté un match de Coupe de France, parce que dans l'envie, à ce moment-là, on a des Lyonnaises qui nous ont pris de haut. Je me souviens de Louisa Nessib, j'ai très bon souvenir de Louisa Nessib qui a porté le ballon pendant 1h30. Mais moi, c'était un régal du coup, parce que parce qu'elle essayait de débloquer la situation, entre guillemets, un peu toute seule. Et finalement, c'était pour nous, défensivement, quelque chose de, entre guillemets, sans dévaloriser Louzane Essip, qui est une super joueuse, que j'apprécie beaucoup. C'était facile, du coup, pour nous, parce que les arguments en face étaient de qualité, mais ils étaient facilement lisibles. En tout cas, ce jour-là, et dans l'engagement des Lyonnaises, ça nous a facilité le travail. Après, le bloc bas, il existait. On a accepté de laisser le ballon. On a accepté d'essayer de s'accrocher en divisant effectivement le match à la mi-temps, en disant il faut qu'il y ait 0-0 à la mi-temps. Il peut se passer n'importe quoi. Bah, effectivement, il s'est passé un carton rouge au deuxième mi-temps qui nous a beaucoup aidés. C'est tout un tas de facteurs entre le staff, entre les joueuses qui étaient sur un projet naissant, qui étaient convaincues de ce projet-là. Avec le travail de Brigitte Henriques, avec Karine Noiland qui m'avait rejoint aussi sur ce projet-là en même temps que moi, il y avait une dynamique extrêmement positive. Et effectivement, si on reparle d'engagement, ce jour-là, il y a eu, alors j'aime pas dire un combat, mais il y a vraiment eu un moment d'engagement supérieur à ce que les filles avaient l'habitude de faire. Et on aurait pu perdre, si on a eu 30% de. Je ne suis même pas sûr. L'état d'esprit, l'engagement, l'envie, la réussite, hein, forcément, la réussite, on fait que. J'ai une anecdote. Hein, Ella Kabashi, qui est encore joueuse, hein, je crois, avait 17 ans, je crois. Elle était dans le groupe. On arrive au tir au but. Et donc, qui tire ? Nous, on avait déjà travaillé un petit peu ça, hein, mais pas forcément insisté non plus éperdument, mais on avait fait des tirs au but. Dans la semaine, en préparation, et personne, quoi, il n'y a que deux joueuses ou trois joueuses qui lèvent la main. Comment on fait ? Compliqué. Hein, on a fait le travail, on arrive au tir au but, c'est ce qu'on voulait, les filles ont beaucoup donné, on sait que Bérangère, derrière, c'était extrêmement costaud, elle était à l'apogée de sa carrière. Bon, il a fallu que des filles se décident. Et arrivé à quatre joueuses, impossible de trouver la cinquième. Et donc, à un moment, Ella Kabashi, elle me dit, bah, moi, coach, je veux bien essayer. Je lui dis, bah, non, et là, si tu veux essayer, ça ne me va pas. Moi, je veux que tu tires, que tu marques. Elle dit, ouais, je vais tirer, ouais. Et je vais marquer. 17 ans, PSG Lyon. Là, je me dis, bon, Camillo, tu sais pas que tu prends un risque, mais après tout, tant qu'elle a joué la carte un petit peu folie, et elle tire, elle marque, on se qualifie. Et après, ça a été polémique. Mais là, quand même, 17 ans, tu aurais pu choisir un international. Et je dis, comment ça, choisir un international? Moi, je vais choisir un international. Elle est internationale, la fille, elle ne veut pas tirer. On va l'obliger. La jeune fille, elle a 17 ans, elle a 16 ans, elle veut tirer, elle veut marquer. Bah, ça s'est bien passé. Bah, c'est l'exemple typique des prises de risque, peut-être, qui ont été prises en termes d'animation offensive et défensive ce jour-là, qui ont payé. Et qui auraient pu ne pas payer... la semaine d'avant ou la semaine d'après.
Alors justement, on va rebondir sur ça, le retourne un peu, mais je vais lier avec ma question suivante. Puisqu'on parlait de joueuses, d'état d'esprit, de mental, de confiance, quand on regarde le 11 de départ de Paris, côté parisien, est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à Cook plutôt que Dudek pour aller avec Paredes en charnière centrale? Est-ce qu'il faut lancer Baltimore d'entrée dans un match si important alors qu'elle est encore jeune? Ou alors est-ce qu'il faut privilégier Nadia Nadim qui parfois perd un petit peu ses moyens, mais qui est une joueuse fantastique au niveau technique. Comment, par où on part ? Qui sur le terrain pour le PSG pour affronter l'OL ? Qui veut se lancer ?
Moi de mon côté, je pense que le 11, il est à peu près clair. Hein, on l'a vu. Bon, c'est un 4-3-3 avec une défense, je pense, Paredes, Cook, hein, sur les trois derniers matchs, c'est ça. À droite, on a Lorenz. À gauche, on a Perle Moroni qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Un milieu à trois, Debritz, Gueyoro. Un milieu à trois, Debritz, Gueyoro et Luan 6. Et puis à gauche, ces derniers temps, on a Baltimore qui performe, qui est très jeune, mais qui performe. À droite, Diani et en pointe, Katoto. Alors, comme tu l'as dit, la question. C'est est-ce qu'on met Baltimore dans un match si important alors qu'elle est encore un peu jeune et que de l'autre côté Nadim vient d'inscrire 7 buts, la question se pose, elle est en confiance, donc voilà, la question se pose. Je pense que Nadim pourrait être titulaire sur ce match et Baltimore rentrer en cours de jeu.
L'important, c'est la plus-value que effectivement tu mets sur la joueuse qui va rentrer, en fait, parce que la joueuse qui commence, c'est pas bon, c'est une question forcément importante, mais c'est surtout quelles armes tu te laisses pour aller perfer et faire un résultat. sachant que de toute façon, il y aura des changements. Je pense que l'enjeu, il est plus sur le banc et la gestion de l'effectif que réellement sur le 11 de départ, même si tout est important et que le match il dure plus qu'une heure et demie et qu'effectivement, le 11 de départ est capital. Si tu prends deux buts sur deux coups de pied arrêtés au bout de 10 minutes, forcément, c'est très compliqué derrière. Mais voilà. Quelle plus-value t'amène sur un changement sur cet axe du jeu-là? Je pense que la question elle peut se poser comme ça. Ouais.
Les individualités vont être importantes, hein, d'autant qu'en face à Lyon, c'est quand même du solide. Il y a alors Dagerberg ne sera pas encore au top pour ça, mais il y a Nikita Paris sans pointe. Il y a toujours évidemment Koumagaï, Henry, Gounard de Tir au milieu, Carpenter, sans compter les meubles, hein, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino. Ça, il va y avoir du répondant et surtout il y a une vraie profondeur d'effectif à Lyon. Ouais. Il faut craindre tout l'effectif, tout le collectif ou quelques joueuses.
La question du 11 lyonnais, c'est un peu plus difficile justement parce que déjà, il y a le luxe du milieu de terrain avec Koumagaï, Gounard de Tir, Henry. Il faut en choisir deux sur les trois alors que les trois sont excellentes. Koumagaï revient de blessure, devrait être titulaire parce qu'elle est remise. Devant, c'est aussi la question. Nikita Paris, tu l'as dit, elle est là. Pour moi, elle devrait pas être titulaire. C'est une joueuse qui est techniquement en dessous de la moyenne, enfin, très en dessous des autres joueuses offensives lyonnaises. Quand on a une Eugénie Le Sommer qui peut jouer en pointe, une Magerie à gauche et une Cascarino à droite, pour moi, il ne faut pas s'en priver. Mais voilà, on verra. C'est une vraie question. C'est quelle animation offensive pour l'OL sur ce choc. Moi, j'espère, j'ose espérer que ce sera Eugénie Le Sommer en pointe. Pourquoi pas peut-être un petit 4-4-2 le même qu'en finale de Ligue des Champions contre Wolfsburg, où Cascarino et Le Sommer avaient performé à deux ensemble. Ça pourrait être une bonne piste.
Oui, je te rejoins là-dessus. Moi, j'aime bien, effectivement, j'aime beaucoup le profil de Cascarino, qui est vraiment un peu couteau suisse et qui a des qualités vraiment propres à elle. Eugénie Le Sommer devant, de toute façon, c'est une super joueuse qui a beaucoup, beaucoup progressé. Moi, c'est pareil, en 2010, Eugénie Le Sommer, je l'avais rencontrée, on avait échangé sur deux, trois choses. Ce n'est pas la Eugénie Le Sommer qu'il y a eu derrière. Et puis, je ne suis pas sûr que tout le monde ne misait sur elle. Une belle progression, moins de marge de progression parce qu'elle est plus au bout là. Mais c'est à deux devant, je trouve que c'est très, très complémentaire. J'aime bien le 4-4-2. Après, c'est vrai que si on reprend l'effectif lyonnais, il y a une largesse qui est hyper confortable. Et je reviens sur ce que je disais. Le match, il se jouera, à mon sens, sur la possibilité de faire évoluer le scénario et l'effectif et le banc, et de faire évoluer l'animation de jeu par rapport à ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est plus du côté de Lyon, quand même.
Écoutez, on a pas mal fait le tour, et surtout, il va falloir accueillir notre invité pour parler plus spécifiquement avec une joueuse qui va le jouer ce match, qui va probablement être titulaire, hein, et qui est jeune mais qui a déjà de l'expérience et qui va encore en acquérir dans ce match. On va accueillir Perle Moroni qui va nous rejoindre là dans un petit instant normalement.
L'appel est en cours, on attend Perle Moroni.
Bonsoir.
Bonsoir Perle. Merci d'être avec nous, de prendre un peu de temps pour nous. Vous allez disputer donc ce vendredi le choc face à l'OL, un match que vous attendez certainement depuis le début de saison, hein. C'est un peu certainement le match peut-être le plus attendu de votre saison. Alors Nicolas va récolter vos impressions, c'est à toi Nicolas.
Bon, déjà pour commencer, 23 ans, tu as déjà plus de 60 matchs en D1 cette saison. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes une joueuse expérimentée dans cette équipe du PSG?
Ouais, bah, je commence un peu à force de jeu, avoir un peu d'expérience. Par rapport, il y a les jeunes et tout qui arrivent, mais voilà, il y a quand même encore des joueuses encore plus expérimentées. Et oui, j'arrive à un certain âge où on peut dire que j'ai de l'expérience, mais j'ai encore beaucoup à apprendre des autres, surtout des autres grandes joueuses qu'on a avec nous.
Même si vous commencez à avoir cette expérience-là, on vous présente encore comme une jeune joueuse d'avenir, une possible titulaire en bleu. Où est-ce que vous en êtes dans votre progression depuis 7 ans? Vous évoluez de manière constante?
Ouais, voilà, ça, j'évolue petit à petit. Je sais ce que j'ai à travailler. Je continue. Voilà, je progresse. Chaque année, je progresse un peu plus. Et Et ben, je vais continuer encore, j'espère.
Vous avez déjà joué plusieurs fois en Lyon, puisqu'on parle de ce choc contre l'OL. C'est d'ailleurs lors d'un OLPG à Gerland que le grand public vous a découvert, parce que malgré une défaite 5-0, vous aviez été l'une des meilleures joueuses du match côté PSG. Quel souvenir vous gardez de ce match à Gerland?
C'est quand même un mauvais souvenir, parce que c'est quand même une défaite qui va rester. Mais je me souviendrai toute ma vie, je pense, de ce match, parce que c'était la première fois que je jouais contre Lyon, et même il y avait énormément de monde. Je crois que le stade, c'était vraiment un record d'influence, il y avait eu, je ne sais plus combien de spectateurs. Et je m'en rappellerai, mais bon, c'était un mauvais souvenir, mais j'avais fait le travail quand même.
Mais bon. Donc, personnellement, vous aviez quand même eu beaucoup de messages de félicitations à l'époque, peut-être sur votre performance.
Ouais, voilà, c'est parce que j'étais jeune et tout, mais dans l'ensemble, collectivement, ce qui est le plus important, c'était négatif. Mais c'était mon premier match et je m'en souviendrai. C'est ça qui fait l'expérience et qui donne de l'expérience.
Revenons un peu sur vous, votre évolution. Vous avez quitté Montpellier, votre ville natale, à l'âge de 15 ans pour rejoindre Paris. Pourquoi cette décision? Est-ce qu'avec le recul, vous êtes satisfaite d'avoir fait ce choix-là?
J'étais heureuse d'aller au PSG, mais après c'était par rapport à ma mère et tout, vu qu'elle est originaire de Paris, on est rentrés chez nous, quoi. Même si je suis née à Montpellier, mais en fait je devais rentrer dans la région parisienne, plus par rapport à ma famille.
D'accord, ce n'était pas un choix sportif, parce que Montpellier est aussi un club... compétent pour la formation des joueuses.
Ouais, c'est un club très compétent. C'est là-bas que j'ai été formée. Et ils font, Montpellier, ça fait partie de ma formation de footballeuse. Donc, quand même, je dois ce club. Mais après, d'aller au PSG, ça a été vraiment le meilleur pour moi et vraiment ce que je voulais depuis que j'étais petite. Parce que même en étant à Montpellier, j'avais quand même les couleurs du PSG en moi.
Et justement, pour parler de votre formation, vous avez été formé un petit peu plus haut sur le terrain, en position d'ailière, de milieu de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez définitivement comme une latérale, puisqu'on rappelle, vous jouez latéral gauche au Paris Saint-Germain, ou est-ce que vous savez que vous avez encore une possibilité d'évoluer plus haut sur le terrain?
Alors oui, c'est possible, mais après, moi, personnellement, je suis vraiment bien à ce poste. C'est vraiment ce poste où je veux progresser et devenir vraiment... atteindre mon meilleur niveau, c'est ce poste que je veux faire ma carrière.
Parce que justement, dans le football féminin, il y a souvent un manque à ce poste de latéral. Il y a beaucoup de joueurs latérales qui étaient des ailières avant et qui deviennent latérales. C'est aussi votre cas, mais du coup, ça vous laisse peut-être aussi plus de place pour vous faire une place dans le foot féminin français.
Bah oui, ça, parce qu'il faut aimer défendre, quoi. Mais au début, je n'étais pas très forcément contente, mais en fait, à force, j'ai appris à aimer défendre. Et même, je me sens mieux niveau placement et tout, je me sens mieux à ce poste, je vois bien le jeu et tout. Et depuis maintenant, voilà, j'aime défendre. Et je pense que j'ai progressé, j'ai des qualités pour ça, à ce poste. Donc voilà, donc je vais rester à ce poste.
Sur votre parcours toujours, en 2018, vous avez été prêté à Barcelone. Pourquoi ce choix à l'époque? Justement, là, vous vous éloignez de votre famille pour le coup. Et qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience à l'étranger?
Ouais, ça a été dur de s'éloigner, comme vous avez dit, de ma famille, mais c'est vraiment une très bonne expérience. De toute façon, à Paris Saint-Germain, à cette époque-là, je n'avais pas forcément beaucoup de temps de jeu. Donc j'ai décidé d'aller là-bas, même si là-bas aussi, je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. Mais vraiment, ça a joué quelque chose dans mon évolution. Parce que là-bas, c'est vraiment une toute autre vie, que ce soit dans le foot ou dans la vie personnelle. Et donc, j'ai vraiment progressé, je pense, en allant là-bas, que ce soit techniquement, tactiquement. Tout ce qui est foot, là-bas, c'est vraiment le football qui domine là-bas.
Ce match contre Lyon qui arrive là, est-ce que c'est le plus important de la saison pour continuer à y croire, pour ne pas se faire distancer par Lyon? Parce que là, vous avez 2 points d'écart, 5 points d'écart, ça commencerait déjà à faire beaucoup.
Oui, de toute façon, tous les matchs sont importants, mais d'autant plus celui-là, parce que c'est nos concurrents directs, vu qu'elles sont devant nous, donc on fait la course derrière elles. Et donc, je pense qu'il faut vraiment gagner. Mais c'est vrai que là, on n'a pas le droit. Ça sûr, on n'a pas le droit à la défaite.
Comment vous le voyez ce match un petit peu, qu'est-ce qui va être les clés un petit peu de ce match?
Ça sera comme d'habitude, hein. Ça sera un match très intense. Et puis ça va jouer à des détails parce que c'est en face une équipe de très haut niveau comme nous. Donc je pense que ça sera les détails et l'efficacité, concentration. Enfin tout, faudra en fait quand on joue contre lui, il faut être au top. On n'a pas le choix.
Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un resserrement de l'écart avec entre vous et Lyon?
Ouais, bon, cette phrase, elle ressort souvent. On dit ça, mais c'est vrai. Mais après, elles gagnent tout le temps, donc c'est quand même, elles sont encore devant nous. Mais voilà, c'est le jour où on gagnera, je pense, on pourra dire vraiment que là, ça se resserre. Pour le moment, elles sont encore devant nous, donc il faut qu'on continue nos efforts. Et ça va payer un jour ou l'autre, je suis sûr.
Quel est l'objectif du club cette saison et quel est le vôtre personnel?
L'objectif du club, comme d'habitude, hein, tout gagner, hein, que ce soit le championnat de France, la Coupe de France, Champions League. Voilà, et personnellement, continuer ma progression, apporter à mon équipe de PSG, donc continuer à faire les matchs pour garder ma place et aider l'équipe. Et puis aussi, l'équipe de France, continuer à être sélectionné en équipe de France. Et le peu de sélection que j'aurai, ou même si j'aurai plus, prouver que je mérite une place dans cette équipe et pourquoi pas une place de titulaire. Voilà.
La dernière question, c'est que vous avez disputé 61 matchs au PSG. En fin de saison, oui. Vous arrivez au terme de votre contrat. Vous vous projetez dans la durée au PSG ou vous voulez aller voir ailleurs?
Non. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais vraiment, moi, c'est vraiment au PSG que j'aimerais faire ma carrière.
Il n'y a plus qu'à. Enfin, j'imagine que vous allez négocier ça en fin de saison, de toute façon.
Oui, il me reste. Enfin, là, la fin de saison, c'est terminé, mais oui, on va voir et normalement, j'espère.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Perle, pour votre temps, en tout cas.
Merci à vous.
On vous souhaite bon courage, vous allez en avoir besoin, mais on imagine que surtout pour battre l'OL, il n'y a pas vraiment besoin de courage ni de motivation, ça vient tout seul.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment le match qu'on attend.
Bon, merci encore pour votre temps et une très belle saison pour vous.
Merci, bonne soirée à vous.
Une bonne soirée.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir, Perle. Et merci beaucoup à Nicolas Jambou qui a eu un petit souci technique, mais dont la paternité de cette interview n'est absolument pas à remettre en cause. Merci Camille Ovas pour votre expertise. On rappelle, vous êtes ancien coach du PSG, vous avez gagné face à Lyon en demi-finale de Coupe de France 2010. On vous souhaite le meilleur. À vous aussi, quelle est la suite pour vous?
La suite, c'est un peu dans la continuité de ce que je vis ces dernières années, s'intéresser à ce qui se fait dans le football moderne, féminin et masculin, et rester actif. Voilà, c'est bien et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de partager des bons moments qui se sont déroulés.
Merci beaucoup à vous, surtout pour votre temps. C'était un échange très, très enrichissant, surtout sur un sujet aussi large. Et puis surtout, une bonne soirée, une bonne journée à tous, selon l'heure où vous écoutez ce podcast, ou vous le réécoutez, si jamais ça vous plaît. Et on vous donne le rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Entre les Lignes sur le site de L'Équipière.
Les lignes, le podcast de L'Équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au vestiaire.